Donc vous voyez une fois de plus le problème que pose ce document par rapport à celui de l'époque augustéenne, où nous avons de larges plages quand même de prières qui sont tout à fait conservées et qui aident à reconstruire cela. Pour ce que, oui, vous avez vu, Madame Schneck l'a dit, la différence des caractères entre l'époque augustéenne, où c'était une belle capitale droite, et l'époque sévérienne. C'est une époque, et ça se remarque chez les Arval aussi, à partir de Commode et Septime Sévère, et puis Caracalla, et ça devient de plus en plus compliqué. Vers 240, le Quadratarius, qui mettait en place l'inscription au charbon, sans doute sur la pierre, n'arrivait déjà plus à déchiffrer le codex, la tablette en cire que lui donnait le commentarius, le secrétaire, parce que ça devenait une cursive capitale, mais très difficile à lire. De même que le latin change à cette époque, on glisse vers le roman peu à peu. Et donc les inscriptions Arval et les jeux séculaires peuvent aider à Rome à faire un cours sur pièce de l'évolution de l'écriture et du latin. Hein, on est dans un cloître, on va de nos cours de latin que nous avons eus à l'époque augustéenne jusqu'au milieu du IIIe siècle où le roman n'est pas loin. On est en train de glisser vers autre chose et on voit que les Romains, même éduqués, parlaient un autre latin que Cicéron.
Et tu m'excuses aussi, l'orthographie...
Oui, alors là, est catastrophique.
Il y a pas mal de fautes dans l'inscription sévérienne.
Les Arval aussi, hein, ça, c'est parfois épouvantable, c'est comme ça. Mais déjà, sous Domitien, ils avaient une année un secrétaire ou un quadratarius qui ou bien était le dernier de la classe, le nombre de phrases absurdes qu'il fait, il n'arrive pas à construire correctement ses phrases, ou il avait peut-être une vénération spéciale pour le dieu Dionysos, mais ça se voit, mais c'est rare. Avant, c'est très bien fait. Alors, nous avons vu ces 6 ou 7 prières, c'est-à-dire les divinités nocturnes et vénérées de nuit, et de jour par les Queen des Semvires, les moires, c'est-à-dire les parques qui accouchent, qui tricotent la destinée de la génération du Saiculum qui va naître, les Iliti, les déesses de l'accouchement qui accouchent cette nouvelle génération qui va lever, et puis Terama, Terre, l'endroit où tout ça se passe, si vous voulez. Ils sortent en quelque sorte de la terre. Et puis les divinités souveraines, Jupiter, Junon et Apollon et Diane, comme vous avez vu. Et puis ce qui est intéressant, c'est qu'ici on a aussi la description de cette victime préalable dont les fragments, on en a déjà parlé hier, les fragments Moretti ont apporté la connaissance pour le document augustéen, parce qu'on ignorait tout. Les fragments, le A qui existait déjà avant, étaient considérés comme un témoignage des jeux séculaires claudiens. Or, c'est faux, c'est une partie du document augustéen et qui se joint parfaitement au fragment B et qui nous donne quelques idées sur ce sacrifice préliminaire, mais malheureusement pas la prière, ça est perdu.
Malheureusement pas l'exécution,
et oui,
seulement
les divinités. Ce qui est intéressant, on sait qu'il y a plusieurs divinités concernées, mais malheureusement pas la description du sacrifice, qui est entre nous la chose la plus intéressante, évidemment. Et pour la prière des moires, oui, c'est 18 victimes, ça fait, il y a 3, c'est très intéressant parce que les jeux séculaires nous donnent des exemples de sacrifices collectifs. Quand on lit chez Tite-Live ou d'autres auteurs, ils ont sacrifié aux Iliti ou aux Moires, au parc. Bon, très bien, mais comment ça se passait? Quand on veut étudier les rituels, il faut voir comment cela se faisait. Donc il y a 18 victimes, 9 de chaque type, des chèvres et des brebis. Eh bien, ça veut dire que chacune en recevait 3. C'est 3 fois 3 victimes qui sont noirs, comme tu as dit, parce que nous sommes dans un sanctuaire des dieux d'en bas, et on adopte les rites de ces divinités. Alors, ça peut avoir des conséquences pour la prière. Est-ce que la formule d'offrande qui figure à la fin de la prière est récitée une fois, ou est-ce qu'elle est récitée trois fois?
La dernière fois, phrase pour les Moirés, je pense même 18 fois, la dernière phrase.
Oui, mais est-ce que ça se fait par groupe de trois?
J'en sais rien.
Parce que je pense que, d'après Auguste, hein, pour les Ilitis, c'est comme ça, on a une prière, on a la prière des Ilitis, il dit on offre aux Ilitis, qui sont trois aussi, autant de gâteaux et de c'est les 9 et les 18 gâteaux et puis la prière c'est Ilutia.
Oui, mais c'est d'autres choses, des gâteaux et des bêtes.
Non.
Une bête c'est vraiment
Non, c'est pas la autre chose. Alors là, je suis pas d'accord. C'est strictement la même chose. Mais sauf qu'il y a pas l'immolatio avec la farine, il y a pas le couteau. C'est une autre offrande mais ce dont on parle, c'est la prière d'offrande, pas de l'acte d'offrande. Et je pense que ça veut dire que chaque Iliti recevait indépendamment ces trois plus trois gâteaux. Mm-hmm. Est-ce qu'on peut se demander si pour chaque gâteau, on ne disait pas la prière? Mais on peut aussi dire, voilà, je t'offre ces trois gâteaux. Mais je pense que, d'après l'exemple des Iliti, il est difficile d'imaginer qu'on ait parlé toujours au pluriel de ces divinités. Au début, oui. Tous les attendus, toutes les circonstances qu'on demande, c'est vobis, phytoté, ou, etc. Mais quand on vient à l'acte d'offrande, où on a cette formule, j'offre, etc., je me demande si là, il n'y avait pas Moira aussi, comme il y tia. La manière dont ils ont rédigé ça, puisque manifestement, il y a un résumé de cette procédure. Alors ça, on ne peut pas l'inventer. Hein. Mais
tu vois, ici, il y a dans la prière des Moirés, il y a le singulier.
Ben oui. Parce que chaque Moira reçoit... un agneau. Parce que comment on peut faire? On n'offre pas un animal à trois divinités. Parce qu'une divinité collective est composée de trois divinités. De même que deux dieux ne peuvent pas un autel, disaient les pontifes avec un peu de mauvaise foi, dans le cas de Honos et Virtus, mais c'était une règle pontificale. Et s'ils offrent une victime... Parce que là, je vois quand même une contradiction avec ce qui précède. Parce qu'on dit accepter ce sacrifice de 9 agneaux et de 9 chèvres.
Oui.
Et puis, harum rero ecta macte hac agna femina, immolande estote.
Et après, on a tiré en avant une de ces 18 bêtes et on a parlé cette dernière phrase. Avec cette bête.
Mmh. Donc on immole, il faudrait une formule aussi après pour dire qu'on a prononcé cette formule 18 fois, enfin 9 fois pour l'agneau, et peut-être 3 fois 3 en faisant des... Je pense qu'on les offrait séparément. C'est pas possible. Mmh. Quand on a sacrifié à Apollon et Diane, c'est la même chose. Les gâteaux, on n'offrait pas confusément. D'ailleurs, le texte le dit, les gâteaux à Apollon et à Diane.
Oui, je vois, mais ici, le texte n'est pas de moi. Le texte,
oui, oui.
C'est comme ça. Mm-hmm. Il faut peut-être encore réfléchir de la façon de procédure.
Mm-hmm. Non, mais sinon, c'est intéressant. Hein. Mais qui reçoit cet agneau? Les moires comme collectivité ou l'une des moires?
L'une, je pense.
Bah oui. Mm-hmm. Et donc après, il faudrait une précision. Il donne la prière d'offrande, mais normalement, il répète quelque chose comme ce qu'on trouve dans la prière Praekidane, in omnibus sacrificis. Sic precatum est, ou quelque chose comme ça. Hein.
Et tu vois ici, est tota fito.
Oui, oui, volentis. C'est ça. C'est ça qui. C'est un pluriel. Ouais, ouais. Oui. Mais avec une victime.
Oui.
Ça, il faut. En tout cas, il faut réfléchir à l'interprétation et au rapprochement avec les autres, avec Ilitia, au singulier. Chez Auguste, parce qu'il sépare bien le groupe en trois divinités.
Oui.
Ça, c'est un problème intéressant. Et bon, même si on n'arrive pas à le résoudre, il faudra l'expliquer, enfin essayer de comprendre de quoi il s'agit. Oui, pour Salus, Salvam, où c'est là? Quiritium salvam servetis, je ne dirais pas que vous rétablissiez, ou conserviez la santé, c'est la salus, c'est
oui,
la,
salus.
L'intégrité physique, spirituelle, oui. Totale de l'État. Hein. De toute façon, valetudo pourrait plutôt signifier la maladie, c'est pour les individus, c'est la maladie, mais ici c'est clairement la vaillance, comme nous dirions... etc. Pour ce qui concerne, oui, ces variations, les gâteaux qu'on trouve dans les divinités nocturnes avec les Ilitis, avec les divinités diurnes avec Apollon et Diane, je crois que c'est un peu le même type, c'est une variation. Quand on a offert tous ces sacrifices de ce type, on offre des galettes qui sont strictement équivalentes aux victimes sanglantes, mais c'est une façon plus simple, enfin plus simple, ça dure aussi longtemps peut-être, mais c'est un autre type d'offrande équivalent. Et d'autre part, le fait qu'Apollon et Diane reçoivent des victimes que nous, nous considérons comme inférieures, montre aussi peut-être qu'une fois de plus, il ne faut pas dire que les jeux séculaires sont la fête d'Apollon, comme Jean Gagé l'a prêché ici pendant des années. C'est faux. C'est des divinités qui ont leur rôle dans les jeux séculaires, mais qui ne sont pas du tout les divinités principales. C'est même les troisièmes, les derniers dans la série. Or, chez les Romains, il y a une hiérarchie. Le premier, c'est le boss. Le dernier, c'est un comparse, dirons-nous. Quelqu'un qui fait partie de la série, mais qui n'est pas le chef. C'est Jupiter, le chef des divinités diurnes. Junon lui est jointe, c'est évident, et les deux autres qui sont les divinités augustéennes et aussi celles qui sont liées au Queen des Saint-Vir, peut-être au livre sibyllin, sont les deuxièmes et, ou les troisièmes, et ils ont même ce côté accessoire comme les Ilitis par rapport au parc et à Terra Mater. Donc ça, c'est très intéressant à voir. Pour ce qui concerne les sacrifices de la victime Praekidane, c'est vraiment il y a des problèmes. Je suis entièrement d'accord avec les restitutions, mais nous savons, et le texte le dit, c'est un sacrifice à plusieurs divinités. Et comme il ne peut pas y avoir une prière unique pour toutes ces divinités différentes, là, je ne vois pas très bien. Et je me demandais si le « et in » qui, à un moment donné, intervient...
Dans la ligne.
Ah, je n'ai pas noté la ligne... C'est la ligne 48. Mm-hmm. C'est là, in, c'est en général les victimes ou quelque chose. Et in, je ne sais pas ce que ça peut être. Et là, il y a peut-être une remarque considérant les autres divinités. Je ne sais pas, parce que ça continue encore avec une prière. Il y a Akeptri, Kes, Akeptor, Es, Akeptri, Kes. Il doit y avoir quelque chose comme cela. Est-ce que ça veut dire à tout, pour toutes les divinités, ils ont récité cette prière? Je ne sais pas. Parce que clairement, les premières formules sont terminées à la ligne 47, et puis et in. Et je ne sais pas. Et de même que ce qui me tarabuste toujours, c'est in omni de la ligne 51, qui est clairement à la fin de ce grand sacrifice préliminaire, qui est lié à la lustratio, à la mise en place du lieu de culte, où tout ça va se passer dans ce trou ou dans ce portique, on ne sait pas trop. C'est un peu avancé, comme tu as l'a dit. Vous voyez, avant-dernière ligne, in omni. Et Moire, c'est un nouveau chapitre. In omni, c'est une remarque générale qui se place sous Jupiter, c'est-à-dire sous toutes les. On met la prière à Jupiter. Et quelque part, on devait, c'est pour ça que l'autre et in devait considérer, à mon avis, concerner les autres divinités qui étaient en cause pour ce sacrifice collectif. Et in omni, omnibus sacris, je me demande, c'est pas, parce qu'on a ça plusieurs fois, c'est une idée qui est venue en rêvant devant l'inscription, si c'est pas la praefatio, in omnis, omnibus sacris imperator caesar etc. Verbis praebat ou quelque chose comme ça, parce que qui ne dit pas là que celui qui a dicté la formule c'était l'empereur, parce que souvent on le marque comme ça. Il faudrait comparer avec ces passages, et c'est évidemment si le pontife Maxime dicte la formule, c'est tout à fait, et en même temps magister du collège, ou en tout cas Queen des Semvir éminent, c'est tout à fait ça. Pour les supplications des matrones, on le sait, c'est l'empereur qui dicte la formule, flanqué par ce qui peut être les prêtresses des matrones, les vestales, si vous voulez. Et oui.
Oui, peut-être il y avait, comme dans la prière d'Apollon et Diana, pour Diana, il y a seulement « eistem verbis » et peut-être ici « in omnibus
eistem ». Sacris ou quelque chose comme ça, une remarque de ce type. Enfin, il faut réfléchir ce qu'on peut mettre, regarder absolument. Très bien. Et je ne traduirai pas les « bos mas » par taureau, c'est bœuf, c'est jamais des taureaux. Mars reçoit des taureaux ou Neptune, mais quand Jupiter reçoit un taureau, ça peut arriver, mais on l'appelle Taurus, et pour Mars c'est toujours Taurus et jamais Bosma. Bosmas, c'est ce style féminin, pourquoi on ne dit pas Agna, mais on dit Agna Femina ou Oves Femina, Ovismas, etc. C'est ce style sacrificiel romain qui doit être le vieux langage paysan. On dit un bovin de sexe mâle, un bovin de sexe féminin, au lieu de dire vacca. C'est traditionnel, mais c'est surtout pas un taureau. Parce que pour moi, je tique à ce moment-là, ça a des implications théologiques. Normalement, Jupiter et tous les dieux civiques de ce type ne reçoivent pas de victimes non châtrées. C'est extrêmement rare et c'est dans des contextes très précis. Peut-être au jeu latin sur le Monte Carvo, mais là encore, on n'a pas de texte direct et il faut être prudent aussi.
C'est ox.
Ox, ouais. Un bovin châtré, un bovin mâle, mais qui n'est pas un taureau. On ne dit pas le reste. Voilà, je voudrais, c'est des premières idées qui me viennent, mais je suis tout à fait d'accord que la structure des jeux sévériens du protocole est comme cela, qu'ils ont ce que peut-être les actes de l'époque augustéenne n'avaient pas fait. Ils ont longuement décrit ce sacrifice préliminaire d'une victime praecidanea. Et avant, il décrivait peut-être la lustratio, mais on ne comprend rien. Hein. On peut pas. Il y a trop peu de place. C'est pas possible. Parce qu'une lustratio, ça se dit lustrum missum. On peut mettre. S'ils ont fait vraiment une lustratio avec les suovetoril, etc., comme ça se faisait. Et ensuite, ils ont invoqué toutes les divinités qui étaient concernées. Parce qu'il allait se passer de cela, ils ont fait ces sacrifices préliminaires, praecidaneum sacrum. Et ce qui est intéressant, c'est exactement ce qu'on fait quand on, je fais ça en marge, quand on fait une constitutio templi ou arae, etc. C'est-à-dire quand on décide de reconstruire ou de construire un temple. Il y a l'inauguration, éventuellement par les augures de l'espace, on le libère, on le lave, etc. Et puis, il y a une double cérémonie, la lustratio, par les suovetoril qui sont sacrifiés à Mars. Et en général, on n'en parle même pas. C'est tellement banal. Lustrum missum, on met, ou lustra verum suovetaurilibus. Et ça suffit. Et puis après, les divinités concernées reçoivent un sacrifice pour qu'ils soient en quelque sorte favorables à l'entreprise de célébrer cela, de faire ses rites et tout ce qu'on veut. Et ça, c'est ce qu'on a par exemple dans Tacite, dans les histoires, quand le Capitole a brûlé et qu'il y a la constitutio du temple, où on fonde littéralement le temple. Après, il y a la construction, après, il y a la dédicace et la consecratio, mais ça vient des années plus tard. Et on a l'impression qu'on touche quelque chose comme cela dans ce texte, hein, dans ce type de rituel préliminaire, qu'on a la chance d'avoir développé ici, ce que n'a pas le fragment augustéen, où on n'a pas ce long développement. Donc, je suis tout à fait d'accord qu'ils ont choisi ce texte pour donner la prière complète. Et ce qui est intéressant, c'est que même la prière préliminaire est la prière séculaire. C'est en gros la prière séculaire, c'est la même. Et après, ils se réfèrent toujours « ketera ut supra », etc. Ils donnent les divinités qui sont concernées et ils donnent une partie de la formule et puis ils renvoient à ce qui précède. Donc là, je suis tout à fait d'accord. Mais il y a peut-être d'autres questions. François ?
Une question d'ignorant, parce que c'est vraiment une partie dont je ne m'occupe pas, comme tu sais, puisque tu y es. Tu as montré dans la prière des moires qu'il y avait effectivement, in extenso, un formulaire qui, ou à l'ablatif, si je ne me trompe pas, ou au génitif pluriel, reprenait 9 agne femine, puis 9 capre femine, et tu proposes ailleurs, pour gagner des lettres, une formule syncopée où tu mets le 9 en facteur commun avec agne et capre femine pour réduire le formulaire, alors qu'ailleurs il est plus étendu. Est-ce que tu as des cas de formulaire déjà syncopé sur lequel t'appuyer pour gagner tes quelques lettres dans la partie où tu veux le mettre en facteur commun?
Oui, il faut dire le style de l'inscription sévérienne est vraiment plus économique. Et maintenant, je n'ai pas par cœur un exemple, mais c'est une observation pendant mon travail. Et il me semble, ici, c'est la formule avec deux fois féminis, deux fois neuf. Dans l'inscription augustien, c'était comme ça, mais tu remarques justement, je l'ai fait pour gagner quelques lettres. C'est pas louche, mais
il faut les gagner.
Oui, il faut les gagner. Oui.
On peut aussi abréger FEM.
Oui, il y a beaucoup plus d'abréviations dans l'inscription. Peut-être je devrais ajouter quelques exemples.
Ah oui, oui. Certainement.
Oui, merci.
Oui.
Aussi un détail dans la ligne 4 de, 44 de l'inscription sévérienne. Tu proposes Remque publicam populi romani veritium. Et partout ailleurs, il n'y a que l'abréviation PR Quirites. Donc 44, tu vois, Remque publicam,
oui.
J'imagine, populi romani veritium. Et je crois que c'est,
oui,
c'est l'unique cas où la res publica et pas seulement le populus romano s'est mentionné.
Oui.
Ça m'a frappé mm-hmm. et je me suis demandé pourquoi tu remplaces ça par cette formule étendue, tandis que partout ailleurs et aussi dans les formulations qu'on peut lire, il y a partout seulement populus romanus quirites.
Oui. Je peux te répondre parce que j'ai repris cette formulation de l'inscription augustien. Et là, on a, pour ne pas avoir deux fois P.P., pour mieux comprendre, ils ont abrégé le publicam et écrit populi. Peut-être dans l'inscription sévérien, c'était autrement abrégé. Ça, c'est possible, oui.
Il y a aussi le fait qu'on mentionne côte à côte le peuple romain et les Quirites et la res publica du peuple romain et des Quirites.
Oui.
Il joue avec ça.
Mm-hmm.
Les Augustes, ça revient aussi, ce genre de différence. Autre question. Ce n'est qu'une partie des problèmes, de toute façon. Mais pour les prières, je crois que c'est important, puisque vous voyez que ça permet de dire, en gros, que s'il n'y a pas de nouveaux paragraphes où il faut enlever 5-6 lettres, une ligne fait à peu près 165 environ de caractères. Et avec ça, en se faisant une police équivalente, avec des calques, des lettres qui sont sur la pierre, on peut faire des tests pour être à peu près correct. On n'est jamais entièrement correct. Ici, justement, les prières sont les éléments les plus stables. Ils changent peu entre Auguste et les Sévères. C'est, même si on met en place autrement, si on change des choses, les éléments et les formules sont les mêmes. Pour la description des sacrifices et ses gestes, c'est beaucoup plus difficile. Même quand on décrit pendant 3 siècles le même sacrifice, je le sais, là aussi nous sommes sûrs qu'il faut restituer ça dans une lacune, et puis on trouve la lacune en fouillant, et on voit que ces Romains, ils ont encore formulé autrement, parce que le problème c'était qu'ils connaissaient le latin et nous ne connaissons que les textes latins qui existent, qui ont survécu. Mais ici, je crois que c'est pas mal. Alors, vous avez vu, on a même eu un petit échange à propos, ce qui est très important dans le sacrifice à Jupiter, de ces 4 bovins mâles, châtrés, les bœufs, donc. Ces bœufs sont offerts suivant un rite très complexe, le rite romain et le rite grec pour l'un d'eux. Et on voit à ce moment-là, pour ce qu'on appelle les sacrifices selon le rite grec, que c'est une construction totalement romaine, avec quelques termes grecs comme les splankna ou à la place des exta. Est-ce que la composition était différente, hein? Les extas, c'est 5 parties canoniques de la victime, les organes sanglants. Les splankna, c'est les intérieurs. Est-ce qu'il y a d'autres éléments que le cœur, les poumons, le foie, le péritoine et la vésicule? On ne sait pas, hein, ça, il faudrait d'abord voir ce qu'ils appellent le mode grec. Est-ce que le grec archivus, achéen, le rite grec archaïque ou quelque chose comme ça, on ne sait pas, hein, on n'a pas vu exactement. Mais le fait qui a été cité, qu'au lieu de mettre de la mola salsa, cette farine salée sur le dos de la victime, de mettre un peu de vin sur son front et de promener le couteau pendant qu'on récite cette formule d'immolatio, eh bien ça c'est le mode romain. Dans le mode grec, on asperge l'autel, on coupe un poil sur le front de l'animal qu'on jette dans le feu. Ça ils le disent, et puis ils utilisent aussi un autre vocabulaire. Et ils s'habillent autrement. Ils ne sont pas en toge, mais ils mettent un autre vêtement. C'est très intéressant, mais c'est aussi très difficile quand vous vous trouvez avec un gruyère, c'est même plus qu'un gruyère, comme l'est cette inscription. Vous avez aussi vu hier le joli petit problème que consiste la liste des dames avec leur mari, document passionnant pour la connaissance de cette société aristocratique de cette époque, mais malheureusement aussi extrêmement difficile aussi les enfants qui chantent le Carmen Seculare. Ça c'est un deuxième morceau de choix du document. Pour la description des autres rites, nous avons l'exemple augustéen qui, même s'il est parfois plus succinct, nous donne les grandes lignes pour restituer, en tout cas, la lacune, même si en latin, peut-être, ils l'ont dit autrement, mais le fait est que c'est un résumé de ce qui se passe, dont on peut être sûr que c'est ainsi, plus que souvent l'exactitude totale des termes employés, parce que, je vous le dis, nous ne connaissons que les textes que nous connaissons, mais pas le latin. Eux, ils parlaient et écrivaient cela quotidiennement, ils avaient beaucoup d'autres manières de dire les choses que celles que nous pouvons inventer d'après nos habitudes de thème et de version. Enfin, il y a aussi un autre... alors là, il faudra prendre une décision aussi, une autre choix de pièce de choix, c'est le Carmen Saeculare. Comme il s'agissait manifestement, à l'époque, la poésie latine n'était pas universelle, disons, comme à l'époque d'Horace et d'Auguste. Là, les poètes romains étaient d'un autre niveau. C'était comme ça, on écrivait plutôt le grec à la fin du IIe siècle, à l'époque sévérienne. Et on a quand même trouvé quelqu'un qui a composé le Carmen Saeculare et il a été mis in extenso sur la pierre. Comme Madame Schneck l'a dit, c'était l'invitation à tous les latinistes, et Piggy notamment, qui était surtout professeur de latin, pour essayer de composer, de remplir les lacunes. Alors ça, c'est comme les Carmina Funeraria, enfin Sepulcrales, c'est un jeu de latinistes, et souvent c'est faux. C'est joli, mais c'est faux parce qu'on ne peut pas réécrire les textes poétiques latins. Donc là, je crois effectivement qu'il faut être prudent et laisser ouvert. Et puis il y a un autre. Bon, il y a la fin qui, bien sûr, ça se termine de façon malheureuse. On n'arrive pas à savoir ce qui se passe. Mais avant, il y a un petit décret des Queen des Semvires qui est aussi épouvantable. Mais enfin, il est assez bien conservé. C'est la description des jeux, des artistes, des courses, etc., des prix qui vont être distribués, etc. Et il y a un long passage, hein, c'est plus d'une dizaine de lignes, 15 lignes presque, où après la fin des cérémonies, il y a des jeux honoraires, comme on dit dans le langage religieux, c'est-à-dire à titre d'honneur, on ajoute des jeux qui ne font plus partie des jeux de la fête même, qui s'appelle ludi seculares. Et ça se passe au Grand Cirque, et on a les noms des artistes, enfin, si vous voulez. C'est aussi, il y a aussi des lacunes, et là aussi, on peut perdre un peu patience pour restituer ça. ce sera, mais c'est moins compliqué puisque c'est quand même plus largement, c'est un peu plus heureux comme partie du texte. C'est ce gros paquet de textes trouvés dans les années 30, je crois, et qui se rejoignaient avec les autres et qui font que vers le deuxième tiers du texte, on a plus de caractères, etc. Mais c'est un des grands documents pour l'histoire des Jeux, hein, parce que je ne connais pas une autre inscription où on donne autant de détails sur les spectacles de cirque, sur les représentations de toutes sortes. C'est vraiment assez extraordinaire. Et ça vient après le passage de François avec ses bambins qui récitent les hymnes séculaires. Voilà, je pense que s'il n'y a pas d'autres questions ou surprises, oui.
Vous n'avez pratiquement pas parlé des deuxièmes jeux séculaires de 88. Pourquoi ?
Oui, parce que...
Donc pourquoi n'a-t-on pas parlé des jeux de 88 ?
Oui, parce que j'ai montré quelques monnaies, mais c'était un séminaire épigraphique et l'inscription domitienne n'est pas trouvable.
On ne l'a pas retrouvée. Hein. Cette stèle n'existe pas à l'heure actuelle. Elle est peut-être sous terre ou elle a définitivement disparu. Et on a, en revanche, quand même, ils ne sont pas totalement nuls à l'époque flavienne. Ils ont fait graver une belle série de médailles dont il est certain qu'on a pris des scènes sacrificielles sur le vif. On imagine que quelqu'un a fait une esquisse. Et puis, il a transformé ce dessin sur le réel en images génériques. L'Argitio Principis, etc. On voit des thèmes de la sculpture monumentale qui mettent en évidence l'empereur, surtout. On voit l'empereur qui dicte la formule aux matrones. On voit aussi l'empereur qui distribue, qui reçoit. On comprend très bien que c'est lui qui reçoit, en quelque sorte. Donc, ce sont des témoignages. Et puis, il y a les petites scènes sacrificielles que vous avez vues, où on voit le sacrifice au bord du Tibre, avec le Tibre couché. Et à l'époque sévérienne, de façon assez intéressante, il y a Hercule et Liber Pater qui sont souvent à l'arrière-plan qui regardent. Ils ne reçoivent rien dans le sacrifice, mais c'est les divinités familiales des Sévères, des Septimes de Lepsis Magna. Et donc ils sont là, en quelque sorte, en observant avec les princes la cérémonie. C'est tout ce qu'on a, une belle série de monnaie, parce qu'à l'époque d'Auguste, on a trois monnaies, je crois, enfin très peu. À l'époque sévérienne aussi, très peu de monnaie, parce que... Alors, on ne sait pas pourquoi Domitien a fait faire cela, mais vraisemblablement, il y avait aussi une inscription. Peut-être qu'il l'avait fait inscrire sur le bronze, ce qui expliquerait pourquoi elle a été transformée au Moyen-Âge, sous la Renaissance, en porte, en toit ou en canon, je ne sais pas, mais il ne reste plus rien, comme les res gestae, dont il reste aucune trace à Rome même. Hein. C'est pas étonnant, tout cela. Voilà pourquoi on n'a pas parlé du pauvre Domitien, qui, dans ce cas-là... Oui. Oui, ces lampes, on en a souvent parlé, il y a beaucoup de lampes où on met ludi seculares. Une idée qui vient tout de suite à l'esprit, c'est comme ils passaient toute la nuit debout, on a dû distribuer massivement ou vendre pour un copec une lampe qui liée à la fête, ou alors une distribution de lampes et d'huile, parce qu'il fallait aussi de l'huile pour faire brûler. Donc c'est peut-être les restes d'une distribution de ce type.
Non, mais je dois dire...
Pour la mise en scène, ouais.
Probablement il y avait la pleine lune pendant ces nuits. Mais j'aimerais bien encore vérifier ça avec un astronome.
31 mai, 1er et 2. Hein. Mm-hmm. Évidemment, il peut y avoir un orage.
Oui. Ça donnera aussi... peut-être des informations sur les années. quand il y avait la pleine lune, le 31 mai. Peut-être ça donne quelque chose, mais je suis encore en train de justifier ça.
C'est au début du mois, en tout cas. Et ce qui est, pour les cérémonies des jeux, ce qui est très intéressant aussi de voir qu'il y a des jeux qui sont célébrés dans les différents théâtres. Ça, c'est des jeux, des jeux de scène. Et Septime Sévère et les Queens des Saint-Vire reviennent du Tarentum en inaugurant les pantomimes et les jeux civiques, etc., dans les différents théâtres qui se suivent. On voit qu'ils partent là-bas, et puis à telle heure, ils arrivent Place Navone, dirions-nous, et ils inaugurent les pantomimes, et puis ils vont au théâtre de Pompée, etc. C'est, pour l'histoire des jeux, c'est quelque chose d'extraordinaire. Hein. Mais là aussi, même si c'est moins difficile, parce que c'est moins vermoulu, c'est quand même aussi redoutable. Et puis, oui. Pour Terra Mater, il y a une belle description de sacrifice. Là, on arrive aussi, il tient le couteau oblique. Enfin, il y a les gestes sacrificiels, cotorium. Ça, c'est Piggy, je crois qu'il a restété. Oui. Cultrum obliquum cotorium et pateram. C'est très, très intéressant, ça aussi. Obtemperasit.
Non, non, justement pas. Et moi, je trouve c'est très intéressant que Septime Sévère a repris ce vieux vestige de... Ça veut dire quelque chose sur son règne.
C'est-à-dire, il y a dans les jeux, clairement, il n'y a pas eu de célébration de jeux séculaires comme ça avant Auguste. Hein. C'est une reconstruction antiquaire. Et on dit même que c'est la cinquième depuis les origines de la République. On calcule comme ça en reculant dans le passé, puisqu'on décide que c'est au début de la République que ça s'est fait. Et il y avait des éléments, comme toujours, quand on crée quelque chose, on prend des éléments de cérémonies plus anciennes qui sont soit célébrées encore, soit on les sort d'autres rites, soit elles dorment dans les archives des pontifes ou d'autres prêtres, et on construit quelque chose. Les arvals, c'est strictement pareil. Et ils ont dû trouver aussi des éléments de vieilles prières, duelli domique, ça c'est banal, même un lycéen peut traduire ça, bello, le vieux nom de bellum, duellum, etc. Donc il y a clairement ces éléments archaïsants qui sont des Augustes à l'origine de cette construction. Mais je crois qu'ils ont peut-être dû trouver ces prières qui datent de l'époque des guerres latines, mais je ne crois pas qu'en 18 et 17 avant Jésus-Christ, Auguste aurait eu le culot de mettre une formule comme cela, qui rappelait quand même en partie les guerres civiles. Parce qu'il y avait même eu à Préneste des événements en 43 et à Pérouse, qui n'était pas le Latium, mais enfin, on aurait compris, ce n'était pas tout à fait politiquement correct, je crois. Sous Sévère, ils ont trouvé certainement des formules de prière. Alors ça peut être Domitien qui a déjà introduit cela, on ne sait pas. Mais là, on voit que ces prières vivent et probablement avec tout le matériel rassemblé, on sait même qui l'a fait, c'est le jeune juriste Atteius Capito qui a dû faire un mémoire de master, dirions-nous, sur cette question qu'il a transmis à Auguste et à Agrippa et qui l'ont transmis aux Queens des Saint-Vire et à la Pythie, n'est-ce pas, la Sibylle, qui a dicté son oracle aux Queens des Saint-Vire en s'inspirant de ce texte. Et vraisemblablement, Domitien, en tout cas, avait ce texte et il a peut-être mis la formule qui devait, alors à l'époque, et surtout en 203, ça devait faire très vieux, ça, c'est du vieux latin, obtemperasit, etc., et ça renvoyait à quelque chose qui n'était plus tellement dangereux qu'au début de l'Empire.
Oui, non. Aussi le auxitis, auxitis, tout ça,
c'est du vieux langage, c'est censé faire ancien. Mm-hmm. Alors que les Romains, à l'époque, déjà à l'époque d'Auguste, ne parlaient plus comme ça. Une restitution.
Oui.
Il est, parce que ses prières reviennent en permanence.
Et oui, oui.
Ici, il est restitué. Vers la fin.
Voilà.
Là, il est clairement conservé.
C'est conservé. Et c'est...
Utique sam. Vous voyez, utique. Ça, c'est typique des erreurs qu'on trouve à cette époque. Mm-hmm. On trouve bien pire. Hein. Mm-hmm. Et Dwelly, manifestement, il n'a pas très bien compris ce mot aussi. Et souvent, ils ne comprennent plus le latin archaïque. Hein. Le Carmen Arval, et je ne sais pas si vous avez avec vos élèves ou seul jamais regardé ça, c'est du latin antérieur, enfin pour partie antérieur au 4e siècle avant Jésus-Christ. Et c'est une reconstruction d'antiquaire de ce type qu'Auguste a inséré dans ce rituel. Mais le pauvre Quadratarius, qui a reçu manifestement le magistère du collège ou l'appariteur qui dirigeait ça, lui a dit ben, « tu nous copieras la prière sur le marbre, c'est quand même bien de la mettre ». Et le pauvre homme s'est trouvé avec des mots qu'il ne comprenait pas. Alors, on répète trois fois chaque verset de ce poème archaïque, et à chaque fois, il se trompe. Ça permet aux linguistes de jouer avec les trois pour essayer de voir à peu près ce qu'ils veulent dire. Mais c'est hallucinant ce qu'il écrit. Hein. C'est l'état du latin à l'époque de Sévère, et les professeurs de latin devaient tenir le même discours qu'aujourd'hui. On a même entendu ex cathedra. Bien. Si vous êtes satisfait, donc vous avez vu ce qu'est faire de l'histoire ancienne, ce qu'est fait est faire de l'histoire de la religion antique, c'est-à-dire avant tout, avant de commencer avec les grands concepts, regardez le document, parce que le document est en général insatisfaisant, parce que même la suite des savants qui s'en sont occupés, même quand on se trouve sur les épaules de géants comme Mommsen, mais le géant avait travaillé très vite parce que c'est pas mal ce qu'il a fait, mais il est évident qu'il ignorait des choses. D'abord, il y a toute une série de fragments qui n'étaient pas connus. Et puis, il a fait vite, et voilà. Et puis, en plus, la religion, ça ne l'intéressait pas énormément. Donc, ce qui fait qu'il y a toujours du travail. Et après, on peut sortir éventuellement quelques concepts pour se relier à une mode ou pour exister dans les commissions de recrutement ou de crédit. Voilà. Je vous remercie tous. Et surtout, Madame Schneck, et François et Madame Granin qui ont travaillé ces jours-ci. Merci beaucoup. Et merci au public qui vient non seulement un lundi matin, un lundi après-midi, mais un mardi matin aussi, pour assister à du vrai travail technique.
Oui, merci de votre patience. Endurance.